vote pour la science avec Isabelle Burgoyne.
Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir le film Forestible, le documentaire réalisé par Dany Janvier, qui parle des comestibles sauvages nordiques du Québec. Il faut entendre par là les champignons québécois. Pieds bleus et bolés, les champignons québécois sont encore mal connus. Un récent inventaire de biodiversité fongique au sein de la forêt de la seigneurie de Lotbinière dans Chaudière-Appalaches a documenté 8 nouvelles espèces mondiales de champignons. Le récent rapport de Mycosphera, une organisation sans but lucratif de promotion du développement de la mycologie en collaboration avec Nature Québec, identifie également 31 espèces de champignons, si rares qu'ils n'ont jamais été aperçus dans la belle province. Aucune espèce de cette diversité fongique québécoise ne figure encore sur la liste des espèces menacées et vulnérables. Pourtant, les champignons du Québec gagneraient en reconnaissance et plus qu'à notre table. Et si l'avenir passait par les champignons? Nous en parlons tout de suite, ne bougez pas. Ah, je vote pour la science aujourd'hui. Nous voulons vous parler de fonges et de comestibles. Je veux parler des champignons, une large part de la biodiversité de nos forêts qui reste encore très mal connue. Nous allons nous contenter de ceux du Québec aujourd'hui. Vous allez voir, il y en a beaucoup. Donc, pour en parler, je suis en compagnie de Raymond Archambault, le conservateur du Fongarium du Cercle des mycologues de Montréal, qui est hébergé au Centre sur la biodiversité du Jardin botanique de Montréal. Bonjour.
Bonjour, bonjour.
Je suis aussi en compagnie d'Yvan Perrault, mycologue et président du Cercle des mycologues de la Naudière et de la Mauricie. Bonjour.
Bonjour, enchanté d'être avec vous.
Nous aussi. Le règle fongique serait l'un des moins connus et des moins protégés, alors que les invertébrés et les champignons représenteraient probablement 90% de toutes les espèces terrestres. Autour de la planète, on compte près de 23 500 espèces de champignons. Ici, les données sur la diversité fongique québécoise restent encore partielles, mais ça progresse. Je vais commencer avec vous, Monsieur Archambault. Le Québec en compte combien d'espèces de champignons? Combien vous en avez au Fongarium?
C'est une question piège.
Oui.
Le Fongarium du Centre de la biodiversité se concentre sur les macro-champignons. Bon. Il y a aussi la part des micro-champignons. Alors, macro-champignons, c'est sûrement autour de 5 000 espèces différentes qu'on a au Fongarium. Il y a aussi des espèces pathogènes qui sont microscopiques, tout ça. Là. Bon, ça, c'est, on a de ça aussi. Alors, au total, le Fongarium, qui est très jeune, qui a été créé par le Cercle des mycologues de Montréal, effectivement, on dépasse les 30 000 collections pour une collection qui a été créée en 1988, donc c'est récent. Mais c'est une collection qui est moderne, puis très dynamique, puis qui a grossi quand même assez rapidement. Donc on dépasse facilement les 30 000 spécimens. Puis en macro-champignons, c'est autour de 4 000, un peu plus que 4 000 espèces.
Pouvez-vous nous donner quelques noms pour...
Oh mon Dieu!
Peut-être les plus connus ou les vedettes. Non,
mais les vedettes, c'est sûr. Quand on parle de macro-champignons, on parle des amanites, les bolets, les lactaires, les cortinaires. C'est ce que les gens observent le plus fréquemment. C'est aussi des groupes où il y a beaucoup, beaucoup d'espèces, dont certaines qui sont très appréciées.
Oui. Monsieur Perrault, vous avez participé au documentaire Forestible sur la trace des comestibles sauvages nordiques. Quelles sont les espèces qu'on retrouve dans le film et celles que vous préférez?
Celles que je préfère manger.
Ou
parce que moi, je suis intéressé par les beaux champignons, les champignons qui ont des formes étonnantes, des coloris étonnants, qui sont occasionnels, quoique j'ai de la plus de difficultés à les identifier. Là, mais maintenant, je suis rendu assez alerte dans l'identification des comestibles, même des comestibles assez rares, là, mais qui sont mangés avec certitude, avec sécurité depuis longtemps. Là.
Donnez-nous des noms.
Moi, j'aime bien manger des amanites comestibles. Je les trouve absolument délicieuses. Une fois cuisinées, elles sont moyen doux, prolongées, puis refroidies. C'est refroidi, c'est très, très étonnant, là, qu'elles libèrent toute leur... complexité aromatique de saveur, c'est absolument divin. Une amanite comestible, d'une espèce comestible.
Ça ressemble à quoi?
Les amélites, ce sont des champignons à la silhouette gracieuse, élancée. Ils ont généralement de longs pieds blancs, des anneaux, des beaux chapeaux de différents coloris avec des flocons dessus. Mais parmi les espèces d'amanites qui se mangent, il y a seulement l'amanite rougissante, la golmotte, qui a des flocons dessus. On se méfie beaucoup des amanites qui ont des flocons dessus. En général, ils font partie d'espèces non comestibles.
Oui. Généralement, on les retrouve sous les pieds de quels arbres? Je sais que les mycologues veulent pas donner
Les amanites, ce sont tous des champignons associés à des arbres.
Oui,
On est bien servi. Toutes les espèces d'arbres, sauf peut-être les érables, les tuyas, mais les conifères, la plupart des feuillus du Québec ont des champignons associés à leurs racines.
D'accord.
Mais attention, parmi les amanites, je suis content de voir que Yvan, il a la témérité de manger des champignons, mais c'est bien sûr, le conseil général, c'est qu'on dit, faites attention avec les amanites, parmi les champignons mortels, ben c'est ceux qui ont causé le plus d'intoxication.
Oui.
Donc, on peut les distinguer. C'est faire la différence qui est important. Et s'il y a des intoxications, c'est parce qu'on peut se tromper.
Ah oui,
avec les amanites, il n'y a pas de risque à prendre. Il faut absolument être sûr de l'identité, là, puis il faut être un petit peu formé à ça, là. On ne prend pas de risque. Une seule bouchée d'une amanite non comestible, là, comme une amanite hiéreuse, et c'est la mort. Dans quelques
ou
jours
peut-être
plus tard,
deux bouchées.
Une ou deux bouchées. Un centimètre cube à peu près, ça suffit à tuer son mangeur, apparemment.
Yvan, as-tu déjà entendu l'anecdote de l'abbé Potvin qui a dit qu'il connaissait quelqu'un que ça prenait deux amanites, deux sporophores, parce que quand tu en manges seulement un, tu es à moitié mort.
Monsieur Archambault.
Il y a eu quelques morts ces dernières années. Là,
oui, il faut faire attention et puis idéalement savoir les reconnaître. Monsieur Archambault, présentez-nous ce qu'est un champignon. On pense surtout à ce qui est hors de terre, mais un champignon, c'est bien plus que ça.
Mais en fait, c'est surtout pas ça. Ce qu'on appelle champignon, c'est ce qu'on voit sur le marché au comptoir des légumes. On associe ça aux légumes comestibles.
Oui.
C'est des fructifications. Et le champignon, l'organisme lui-même, le corps de ces individus-là, indépendamment qu'ils soient reproductifs ou non, le stade végétatif, on ne le voit pas. Il est souterrain. C'est ce qui est responsable de la grande discrétion des champignons. Ben, ils sont discrets, on ne les voit pas. Ils sont beaucoup moins appréhendés, étudiés par les scientifiques. Simplement parce que moins facile à découvrir.
Oui. Est-ce que c'est pour ça que vous utilisez le mot « fonge »
Le mot « fonge », il est très ancien. Hein?
Oui.
Il s'est répandu depuis une vingtaine d'années, 30 années. Moi, je l'utilise depuis cette période-là. Puis ça existait en Europe d'abord. C'était un mot français, la fonge. Puis ça signifie champignon en français. En français. En anglais, on va dire fonga, mais le mot mushroom en anglais, il est confondant parce qu'on le limite au macro-champignon habituellement.
Un peu comme le mot champignon pour la plupart des gens.
Exactement. Mais champignon et fonge, en français, c'est des mots équivalents.
OK. Il y a aussi mycélium.
Le mycélium, c'est le corps du champignon, le corps, l'organisme lui-même. Puis cet organisme-là est tellement ténu, c'est des filaments très fins qui créent le fonctionnement de ces organismes-là. Ils sont pas comme les plantes ou les animaux pluricellulaires. Ils ont pas de tissu, ils ont pas d'organes. Non, c'est simplement des filaments. Puis c'est avec ces filaments-là que les champignons doivent s'organiser pour se développer dans le substrat en présence de plein d'autres micro-organismes qui sont là. Les bactéries, les nématodes. Oh, mettez-en, c'est un monde souterrain dans lequel les champignons se développent.
Oui, et il y a aussi mycorhizes quand ils communiquent avec les arbres. Et
oui, ça, c'est un aspect de la fonge. Hein. Il y a beaucoup de champignons. Beaucoup, vraiment de champignons qui vivent en symbiose avec d'autres organismes.
Oui.
Et une des symbioses, c'est les mycorhizes.
Oui.
Myco-champignons, rhizes, racines.
Monsieur Perrault, qu'ignore-t-on sur les champignons sauvages comestibles? Je sais que vous êtes beaucoup dans les comestibles.
Oui. Qu'est-ce qu'on ignore?
Qu'est-ce qu'on ignore? Qu'est-ce que la plupart des gens ignorent?
On est encore faible. Pour ce qui est de l'ignorance, je ne sais pas trop. C'est-à-dire qu'on ne sait pas encore. Les qualités nutritives sont encore mal connues. Il semble qu'ils soient riches en micronutriments, mais faibles en macronutriments.
Pour vous, quels sont ceux ou celui qui présenterait peut-être une qualité nutritive intéressante et qui serait peut-être un peu moins connu que, j'allais dire, le bolé ou le chanterelle ou la morille, qui sont peut-être le trio les plus connus, là?
Ouais, je verrais bien les zygrophores et les tricholomes qui poussent tard en automne, là, qui sont rarement dans les assiettes des gourmets, là. Je pense qu'ils auraient des qualités nutritives intéressantes, mais ça coûte cher d'analyser les qualités nutritives d'un nouvel aliment en faisant étude là, en laboratoire. Là. Ça coûte plusieurs milliers de dollars. Hein. Puis souvent, les micronutriments qui sont là-dedans ne sont pas détectables ou très difficilement détectables par les laboratoires actuels avec leur équipement. Là. Fait que, vous voyez, on a encore pour des années et des années avant d'établir leur valeur nutritive réelle.
Entendu. Monsieur Archambault, il y a un intérêt mitigé de la recherche universitaire sur la mycodiversité au Québec. Pourquoi
je sais pas.
La recherche scientifique...
Ça s'inscrit dans un mouvement général d'une diminution de l'intérêt pour les inventaires biologiques.
Oui,
autant
les
pour les insectes, les herbiers. Disons, il y a une baisse d'intérêt pour les études de terrain. Et puis, on s'en va plus vers des analyses plus économiquement rentables, c'est-à-dire des genres de recherche qui amènent des fonds, plutôt que de consacrer des fonds de recherche à ce qui, pour beaucoup de monde, n'a pas de répercussions à court terme.
Ouais,
les champignons sont les grands perdants de tout ça, de ce processus-là. Je suis d'accord avec Yvan, par exemple, il mentionne les tricholomes, qui sont des champignons qui peuvent être super intéressants, super délicieux. Pourtant, c'est chez les tricholomes qu'on rencontre le plus d'avertissements. Certaines espèces qui disent, écoute, oui, mange-en. Mais fais attention à la quantité et à la répétition. Mangez souvent une espèce de champignon en quantité, parce qu'il y en a beaucoup, par exemple. Il y a plusieurs cas de problèmes qui sont survenus suite à ça. Et parmi les champignons qui présenteraient des risques, en tout cas ceux avérés présentement, il y a des tricholomes. Délicieux. Bon,
oui,
mangeons-en.
Il y en a
beaucoup, ça ne me coûte rien, c'est bon, mais ça fait partie des champignons qui... Il y a des produits chimiques là-dedans qu'on ne connaît pas présentement et qui peuvent avoir des conséquences sur la santé. Puis ça s'applique même à des champignons qui sont même communs.
Oui, oui. Donc, il faut mieux les connaître. C'est pour ça que le travail de science citoyenne est important. Et aussi, peut-être, la recherche qui est liée à ça. Je sais que, M. Perrault, vous allez dans les bois pour... emmener du monde, justement, pour apprendre à les connaître.
Oui.
Donc, c'est quoi votre travail dans les bois, là, dans la forêt de forestier, par exemple?
C'est simple, c'est qu'on entre en forêt, on est un groupe, puis là, on cueille des champignons, mais souvent, les champignons ne sont pas au rendez-vous, hein, parce que c'est sec, là, surtout l'année passée.
Oui.
Et là, on essaie de faire le maximum pour se retourner vers les plantes, les petits fruits sauvages quand il y en a, les arbres. On essaie, là, de ne pas perdre de temps quand on est en forêt. Puis pour que les gens y retournent avec des apprentissages. Fait que c'est ça, je suis un peu un animateur. Il y a des périodes aussi où je cueille en solitaire, là, puis là, je reviens vite vers le groupe. Et à la fin, on met en commun les champignons sur la table, puis on les identifie formellement, là, où on va le plus loin qu'on peut dans les identifications. On a nos livres de référence. Puis c'est très intéressant pour les gens qui viennent aux excursions de mon cercle de mycologie, ainsi qu'aux excursions de tous les cercles de mycologie au Québec. C'est la façon de procéder là, habituelle, là, l'identification de tous les spécimens récoltés sur une belle table. Là. Puis on envoie à tous les stades, on envoie jeunes, moyens, vieux. C'est vraiment très, très important d'assister à ces excursions-là pour... pouvoir s'affranchir du danger de la méconnaissance puis des erreurs possibles. Puis évidemment, ben pendant que je suis là, ben à la fin, si c'est possible, s'il y en a, je fais le tri sévère des spécimens comestibles, d'espèces comestibles, dans un parfait état de fraîcheur. Puis là, ben je les mets groupés dans des sacs bien identifiés avec des conseils de cuisine. Des fois, c'est pas possible, là, on trouve seulement des champignons en mauvais état. Mais quand c'est possible, les gens aiment bien repartir avec des sacs de champignons sauvages à cuisiner, d'espèces nouvelles auxquelles ils n'auraient pas osé s'attaquer tant que ça. Mais avec moi, ils sont en sécurité.
Entendu. Monsieur Archambault.
Oui. Au Québec, il y a 14 groupes de mycologues amateurs, ce qui est à peu près 3 fois plus de groupes que dans le reste de tout le Canada. Il y a 14 groupes de mycologues amateurs. Et effectivement, comme Yvan le décrit, des gens vont en forêt, apprennent à reconnaître des champignons, recherchent tous les comestibles, reconnaître des toxiques. Mais il y a un phénomène qui se produit dans la plupart des clubs. C'est qu'il y a des, parmi les amateurs, il y a des gens qui deviennent des mordus de la mycologie, qui s'intéressent à tous les aspects. Ils veulent connaître les champignons, souvent même ils n'en mangent pas. Et c'est quelques personnes-là qui deviennent demander des mentors pour tous les autres. Et ces personnes-là, souvent, se livrent à la cueillette et à l'inventaire. C'est-à-dire, ils prennent des photos, font des récoltes, font sécher les champignons pour les conserver dans le but d'études futures. Il y a quelques mycologues comme ça, répartis dans la grandeur du Québec, et ce sont des pourvoyeurs du Fongarium CMMF. Ces collections-là qui montrent qu'ils sont très bien faites, avec des photos à l'état frais, champignons bien séchés, identifiés correctement ou même avec erreur, ça, c'est pas grave. Quand la collection peut être conservée. Puis comme le mentionnait Yvan tout à l'heure, tu sais, l'étude approfondie se fait au microscope, après coup, et bien sûr, avec le moléculaire, l'ADN. Yvan l'a mentionné d'ailleurs, ça devient de plus en plus indispensable pour faire la différence entre tous les champignons qui se ressemblent.
Oui, ben c'est ça. C'est Monsieur Perrault les voit frais et vous, au Fongarium, vous les voyez secs, d'après ce que
les
je comprends.
Les deux. tout y passe.
C'est quoi la mission du Fongarium? Qu'est-ce que vous faites?
Oui, la première mission, c'est la mycodiversité. Inventorier la mycodiversité du Québec. Puis ça, là, c'est en pleine croissance. Grâce aux mycologues amateurs, grâce à ce qu'on appelle la science citoyenne, du travail d'inventaire très bien fait, ça aboutit au Fongarium. Donc, documenter la mycodiversité. Et l'autre but, mais on est là-dedans aussi, c'est de contribuer à des recherches en systématique dans la classification des champignons. Donc, au Fongarium, on reçoit quand même pas mal de demandes de prêts, de collections, des collections, des demandes d'Europe, des États-Unis, ben même du Japon, pas tellement d'Asie. Actuellement, il n'y a rien en Asie qui se passe au point de vue des échanges. Mais puis beaucoup au Québec qui ont servi à des études plus en systématique, c'est-à-dire là, analyser la classification. Puis je peux vous donner un exemple. Oui. Récemment, avec Myco-Québec, c'est un site Internet facile d'accès, avec Myco-Québec, il y a eu un inventaire des russules du Québec. Bon, ils ont répertorié au-delà de 200 collections, espèces, là, plus que 200 espèces de russules, la plupart ils venaient du Fongarium, et ils ont fait faire des études moléculaires, bon, microscopiques et moléculaires, toutes des champignons photographiés à l'état frais. Et parmi ces 200 espèces-là, il y en a 100, la moitié, qui ne sont pas encore nommées. C'est des espèces non décrites. On a des spécimens, mais on n'a pas le nom officiel. Il a peut-être jamais été attribué. Donc, il y a un champ d'études.
Des nouveaux champignons.
Il y a un champ d'études énorme, et ça, il y a très peu de mycologues scientifiques qui se livrent à ce travail de décrire les nouvelles espèces. Or, elles sont très nombreuses.
Oui, je suis d'accord avec vous. Les champignons et les autres lichens formeraient donc un des piliers dans les plans de restauration des écosystèmes, comme le soulignaient les membres de l'Union internationale pour la conservation de la nature lors du Congrès mondial pour la nature d'Abu Dhabi aux Émirats arabes unis en octobre dernier, 2025. Et les membres ont d'ailleurs souligné l'importance de poser des actions pour mieux protéger les champignons avec une motion, la motion 91. Rappelons que l'Assemblée nationale des Nations unies a proclamé la période 2021-2030, la décennie pour la restauration des écosystèmes. Monsieur Perrault, comment est-ce que les champignons peuvent aider les écosystèmes et les sols à se restaurer?
Oh oui, ça a commencé depuis environ 25 ans déjà. Là. On commence à procéder à ce qu'on appelle la mycorémédiation des sols. C'est-à-dire qu'on inocule certaines espèces de champignons au niveau du mycélium qu'on a développé là, en laboratoire, dans des terrains contaminés. Puis on sait que ces champignons-là, là, ils vont développer leur mycélium, là, leurs filaments, leurs ifs, là. Puis qu'avec les enzymes produites par ces filaments-là, bien, il y a des chaînes moléculaires complexes là, de produits contaminants là, qui vont pouvoir être défaites en molécules plus simples qui, elles, vont pouvoir être absorbées par l'ensemble du cycle naturel. Donc, la micro-rémédiation des sols est en cours. Moi, si j'étais plus jeune là, et plus d'affaires, je me partirais une compagnie là-dedans. Là. Les sols contaminés au carburant, là, aux énergies fossiles.
Vous ne vous lanceriez pas dans les mycomatériaux, matériaux composés de mycélium?
Bien, en fait, je me lancerais dans les deux. Les deux sont vraiment l'avenir. Alors, peut-être plus encore les mycomatériaux, là, avec les ifs, là, des champignons qu'on développe là, artificiellement.
Qu'est-ce qu'on en fait?
On peut en faire toutes sortes de choses. On en fait des films plastiques, là, des pellicules de plastique, là, mais qui n'ont pas de plastique, voyez-vous, puis ils vont se décomposer, mais ils vont remplir le même office. On en fait aussi des composantes qui avec la mélanine là, qui sont noires, là, qui bloquent les rayonnements solaires. Ça serait pareil pour les combinaisons d'astronautes en sous-couche.
Oh.
Oui, ou les patients qui ont des radioscopies. C'est un micro-matériau qui peut entrer dans les protections contre les rayons X. Puis aussi, ça peut rentrer dans la fabrication de toutes sortes d'objets de la vie de tous les jours. Le problème à date là, avec les micro-matériaux, c'est que ces ifs de champignons-là, ils peuvent connaître une croissance continue. Fait que le matériau qu'on peut former, il peut se déformer par la suite. Il y a en exposition dans un musée une chaise là, qui est célèbre, qui a été faite en micro-matériaux. Là. Et puis, elle change de forme subtilement avec le temps.
Avec l'humidité,
avec l'humidité ou avec la croissance naturelle continue.
Même les artistes, peuvent l'utiliser.
C'est spécial parce qu'on a ces ifs-là là, qui continuent de développer, mais hors terre, à l'exposition de la lumière, à l'exposition avec l'air respirable qui comporte beaucoup d'azote. Puis on sait que les champignons, au niveau des mycéliums, ils détestent l'azote. Hein. C'est pour ça qu'ils sont tous réfugiés sur Terre là, depuis des centaines de millions d'années. Comme s'ils vivaient une sorte d'hiver nucléaire là, avec la constitution de l'atmosphère respirable. Parce qu'avant, l'atmosphère n'était pas pareille. Hein. Puis les champignons étaient très à l'aise à l'extérieur. Il fut un temps où la Terre entière, on voyait seulement les océans, puis les terres émergées de la roche. Puis, seule forme de vie, c'était des champignons qui peuplaient la roche avant l'arrivée des premiers végétaux. Fait que, il semble qu'ils aient conservé, les champignons de cette époque-là, des premiers âges de la Terre, la capacité d'absorber les rayonnements solaires, les parties indésirables là, des rayons qui confinent à la radioactivité. Puis à Tchernobyl, avec la patte d'éléphant, c'est un cas célèbre, là, c'est une espèce de résidu là, qui a coulé, là, qui a une forme de patte d'éléphant. Mais là, la radioactivité est en train de baisser très, très rapidement là-dedans, avec les mesures qui sont prises par les courageux, là, parce qu'il faut quand même aller là, se rapprocher, puis une exposition de quelques minutes de trop, puis c'est la mort assurée, là. Puis les mesures de radioactivité semblent anormalement basses, puis elles sont même contestées. Hein? Ils n'avaient pas tenu votre appareil comme il faut, tout ça. Mais il est recouvert d'un champignon noir, qui est un cladosporium. C'est ça, je ne sais plus que ça en a, c'est un nom compliqué cette affaire-là. Un cladosporium. Ça bouffe la radioactivité, cette affaire-là. C'est fascinant.
Il y a plein de recherches scientifiques qui seraient à mener, finalement, si je comprends bien, sur toutes les promesses d'un organisme, finalement, qu'on connaît encore bien mal et bien peu. Monsieur Archambault, je vais terminer avec vous. Vous qui avez dévoué toute votre vie à la fonte, je ne révélerai pas votre âge. Donc, je voudrais que vous nous parliez, justement, peut-être des confusions fréquentes sur la place du règne des fongies dans l'arbre de la vie, ou peut-être simplement de pourquoi vous aimez tellement, vous intéressez tellement à la fonte.
Les champignons sont méconnus, c'est sûr,
oui.
Parce qu'on comprend mal leur succès évolutif.
Mm-hmm.
Mais avant de comprendre leur succès évolutif, il faudrait le reconnaître.
Oui.
Reconnaître qu'ils connaissent une radiation évolutive énorme. La capacité de s'adapter à toutes sortes de conditions différentes dans le milieu, tous les habitats, les différents substrats, les phénomènes de compétition avec tous les autres organismes pour des organismes, qu'on se le dise, le mycélium, ce sont des petits filaments multicellulaires qui ont des grandes capacités. Et tout ça découle de l'usine chimique. Les champignons présentent une diversité de processus chimiques incroyables. Ça touche à ce qu'on appelle les métabolites secondaires ou substances naturelles. Et puis, c'est incommensurable. C'est vraiment une grande diversité et même des champignons qui peuvent se ressembler peuvent avoir des aptitudes chimiques très différentes. Donc, la capacité de s'adapter, dégrader des matériaux. Oui, on a trouvé des champignons pour dégrader à peu près n'importe quoi. Mais attention, ce champignon-là, il ne suffit pas de le répandre dans le milieu, puis il va tout dégrader. Non, ça, ça marche en laboratoire. Et c'est souvent le cas de ces substances, ces usines chimiques-là sont expérimentées en laboratoire.
Mm-hmm.
Ou sur des animaux de laboratoire, dans des plats de pétri sur la gare. Puis là, on tire des conclusions.
Ah oui, des conséquences. Faut toujours être un peu modeste, finalement.
Parfois ces, parfois, ces conclusions-là sont généralisées. Et puis, on en trouve plein sur Internet. Des produits naturels de champignons cherchés, bon, je sais pas, par exemple le Ritchie, c'est incroyable tout ce qui est galvaudé là-dedans, alors qu'il n'y a à peu près pas d'études cliniques sur du monde vivant. Le laboratoire humain de test. Oh, il y a sûrement des champignons. Attention, là, je ne dis pas que c'est jamais bon, parce que la population de l'humanité a doublé grâce aux champignons, la pénicilline. Ça vient des champignons et... C'était un bienfait énorme. Il y en a d'autres, la cyclosporine. Il y a plusieurs, quelques substances comme ça qui ont été un bienfait énorme pour l'humanité. Mais là, généraliser, il faut faire attention aux généralisations. Donc, c'est ça, là, comprendre la complexité de ces usines-là, les capacités que ça peut produire. Puis c'est vrai, c'est sûr et certain qu'il y a des substances, des médicaments nouveaux qu'on peut trouver chez champignons. Ce qui manque présentement, c'est les études cliniques en médecine. Qui peuvent nous confirmer hors de tout doute. Alors, les gens, souvent, malheureusement, ça s'appuie sur des... Bon, ça peut être Internet, ça peut être Facebook, ça peut être peu importe, là. On s'appuie parfois sur des choses anecdotiques. Je ne parlerai pas d'intelligence artificielle, c'est encore pire. Mais comme si c'était tout était possible. Attention, c'est ça. Il faut développer le raisonnement pour bien comprendre... toute la nature réelle des champignons.
Oui, puis peut-être la recherche scientifique aussi.
C'est fondamental, ben oui.
Ben merci beaucoup. Merci, on était en compagnie...
C'est un plaisir.
...de Raymond Archambault, le conservateur du Fongarium, donc du Centre sur la biodiversité du Jardin botanique de Montréal, et de Yvan Perrault, mycologue et président du Cercle des mycologues de Lanaudière et de la Mauricie.
Merci d'avoir accueilli.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vote pour la science, c'est une production de Science Presse avec Radio-VM, à la régie, Jérôme Costigan, à la recherche cette semaine, la réalisation et le micro, Isabelle Burguin. Si vous avez aimé l'émission, partagez-la. Vous pouvez aussi suivre la page de Je vote pour la science sur le site de Science Presse. Je vous souhaite de passer à tous et à toutes une très belle semaine à notre antenne.
Jing Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance.